Balado Gazette, la plateforme de diffusion de création radiophonique vous propose Culture 5. Bernard Laurent, c'est à vous.
Bonjour à tous et à toutes et merci de votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes le 13 mai 2022, mais pas de coup d'État en vue, pas de barricades dans les rues de Paris. Je dis ça pour les quelques 13 mai historiques. Non, non. Un 13 mai bien calme, il ne se passe rien de notable dans le monde, le printemps est en place et les saints de glace n'ont pas jeté de coups de froid dans les jardins renaissants. Il y a bien quelques rumeurs du côté du grenier à blé de l'Europe, quelques sautes d'humeur du côté des lieux saints à Jérusalem, mais bon, pas de quoi m'énerver au point de porter à vos oreilles des propos indignés, des mots de révoltes ancestrales devant l'indifférence des uns face à la misère des autres, la richesse insolente de quelques happy few quand tant d'autres ont du mal à rassembler le budget pour aller jusqu'à la fin du mois. Mais c'est vrai, faut être raisonnable, quand on peut pas finir, faut pas commencer. Alors, en ce printemps ensoleillé, peut-être un peu précoce, la meilleure chose à faire est d'écouter Culture 5. Installez-vous dans un lieu hors d'atteinte des bruits du monde, un lieu pourvu de commodités essentielles en termes de nourriture et de boissons, un lieu dont l'isolation protectrice vous mettra hors d'atteinte des contaminations virales, bactériologiques ou radioactives. En fait, un abri. Et pour écouter Culture 5, le mieux serait idéalement le 6e sous-sol d'une usine désaffectée. Je dis ça sans réfléchir parce que des usines désaffectées dans lesquelles on se réfugie, en ce moment, ça n'existe pas. Alors, profitons-en pour saluer ce renouveau printanier, certes un peu sec, mais pas d'inquiétude. Ce qu'il restera des récoltes à venir suffira bien à nourrir les survivants des famines annoncées. Mais pour l'heure, il fait beau, alors...
Quand le soleil s'est levé là-bas derrière Pantin, ça n'a été qu'un cri dans le petit matin. Il fait beau. Les oiseaux de Paris filent aux chambres en faciel, aux quatre coins de la ville ont porté la nouvelle. Il fait beau. De la muette à Pigalle, on se l'est répété, une bonne nouvelle, ça vaut le coup d'en parler. Il fait beau. Il fait beau.
Et tout Paris bientôt fredonne obstinément ce refrain de trois mots monotones et charmants.
Il fait beau. Tout le monde est content. Puis le soleil joyeux montant un peu plus haut, en fin de matinée, il y a quelque chose de nouveau. Il fait chaud, ça s'aggrave d'heure en heure, bientôt nous étouffons.
On a un petit peu d'air quand il passe un avion.
Il fait chaud, les femmes sont adorables, comment peuvent-elles ranger dans si peu de tissu, tant de choses à toucher. Il fait chaud.
Partout dans les bistrots, on prépare les grands verres. On a beau être content, on se fait monter de la bière.
Il fait chaud, faut jamais s'en faire. Délaissant avant l'heure son torride bureau, l'ami Gaston chez lui est rentré bien trop tôt. Il fait chaud. Il a trouvé sa femme seule avec un monsieur.
À part le drap du dessus, il n'avait rien sur eux.
Il fait chaud.
Gaston restait sans voix.
Sa femme ne disait rien.
Alors l'autre type a dit,
il y a comme ça qu'on est bien.
Il fait chaud. Il fait chaud.
Vous croyez, dit Gaston.
Je peux vous l'affirmer.
Gaston s'est dévêtu
et tout s'est arrangé. Il fait chaud. On peut pas se fâcher. Puis enfin c'est le soir, assis devant leur maison, les concierges déclarent avec satisfaction. Il fait bon. Dans le ciel assombri, les hirondelles font en poussant des petits cris, une partie de saute-moucheron. il fait bon. Puis le soleil pressé disparaît vers Saint-Cloud, là le tour du monde à faire, faut qu'il en mette un coup. Il fait doux, il fait doux.
Il a pas de temps à perdre, s'il veut être revenu demain, on compte sur lui de bonne heure là-bas derrière Pantin. Il fera beau,
il fera beau,
il fera beau,
ça nous plaira bien.
Culture 5, nous, les frères Jacques, bien sûr, Rochner et sa mythotologie. Ce garçon est décidément hors sol. Ensuite, nous ferons les contes avec Magdeleine, les contes C-O-N-T-E-S. Et enfin, Annie André nous racontera les aventures amoureuses et instables de Guy. C'est une rediffusion. Ah donc, pour commencer, amis auditeurs, la parole est à Jean-François Rechner.
Il était une fois promis à un destin qu'on peut dire unique, un nommé Coclet, mi-homme, mi-dieu. Son nom, mot-clé, ouvre d'étranges portes qui nous nouent l'intestin. Coclet devait entrer dans le labyrinthe, défier le Minotaure aux os laids. Cet être hybride étant très fort et laid, notre héros, pour se doper, but l'absinthe. Pour délivrer, il ne savait plus qui au juste. Eustache lui prêta, pour rebrousser chemin, une trompe qu'il devait tenir à la main. Puis, le demi-dieu partit, bombant le buste. Il faisait très chaud dans cette fournaise à l'abandon depuis tant de semaines. Il se sentait cuire dans cette serre humaine, comme rôti dans une vieille béarnaise. À peine entré dans le vestibule, il ouït un roulement de tambour faisant vibrer sans cesse ses mandibules, tel le galop de 10 chevaux de labour. Il venait de quitter le pavillon. Un vent violent émettait des sourcons plus glauques que le chant des pendus de Villon, comme il gravissait le colimaçon. Solidement campé sur ses jambes torses, le monstre l'attendait, royal, pimpant. Notre preux, coincé contre le tympan, se dit « in petto, ça se corse ». Tout était réuni. Son et odeur sur les murs, reflets tremblants du feu, quand solennellement sortit le jeu. Je ne sais quoi dans l'air serrait nos cœurs. « Combien de 7 ?» demande Coclet. « 8 !» dit l'autre. « Au début, tête de mort. » Il s'échauffe. Il se dit « il est fort ». Pas de trace de salut dans la fuite. Inutile de trembler, de crier. Il fallut mettre le pied à l'étrier. Pris entre l'enclume et le marteau, regrettant de n'avoir pas plus tôt réfléchi, posture de combat, assis. Sachant léger et court, le sursis. Quand l'autre rata une tour Eiffel, la sueur perla sous ses aisselles. Quand il dut stopper une suite à 4, il se concentra, prêt à se battre. Plus têtu qu'une vieille mule, il fit si bien qu'il obtint partie nulle. Ils comprirent. Recommencer serait vain. La bestiole l'invita à boire du vin, meilleur qu'ambroisie, un vrai nectar tiré de sa vigne d'un hectare. Restait à notre champion une tâche à accomplir, appeler Eustache, qu'il trompa fort. L'autre vint à table, les 3 prirent une cuite mémorable. Quoi ? Pas de princesse dans cette histoire ? Pas le moindre petit fil d'Ariane ? Pas de morale brillante, édifiante, pas de fin croustillante ou effrayante, pas de drame. Ce n'est pas une fin idoine. Non, juste je d'ivrogne, qu'allez-vous croire ?
Ce soir, je vais partir visiter les nuages. Je n'y suis pas encore, mais ça va pas tarder. Je vois déjà des fleurs tout autour des visages. Tous les gens qui sont là commencent à me regarder. Car si je réussis, c'est extraordinaire. Ils ont raison d'attendre. Ils seront pas déçus. Je sens que je m'arrondis comme une montgolfière. Je vais quitter la terre, personne ne me verra plus. J'ai commencé ce matin, aux petites aurores, avec un muscadet de derrière les fagots qui glissaient comme du velours. D'ailleurs, j'en rêve encore. Et deux, trois petits kirs qui étaient bien rigolos. Vers midi, je marchais sur des pompes à bascule. C'est là que j'ai compris que j'allais m'envoler. C'est un travail très dur. Si t'avances pas, tu recules. L'ivresse, c'est un pays où faut pas rigoler. T'as des gens qui picolent sans aucun savoir-faire. Et ben voilà des gens qui s'envoleront jamais. Qui cesseront pas de ramper, qui quitteront jamais terre. Alors que moi, je sens que ça va pas tarder. Je vais survoler Paris comme un ange véritable. J'aimerais pouvoir emmener tous mes potes avec moi, mais comme ils se foutent de moi parce que je monte sur la table, je vais m'envoler tout seul. Et je les emmènerai pas. Il est 8 heures du soir. Il y a 12 heures que je travaille. Je me sens tout léger comme un petit oiseau. Me voilà sur le trottoir avec des gens qui braillent. Je vais prendre mon élan. Je serai tellement beau que tous ces connards-là en auront plein la vue. Allez, hop, c'est parti. Non, c'est pas pour ce soir. Il y a 20 ans que je m'exerce. C'est toujours peine perdue. J'essaye encore demain. Après, j'arrête de boire.
Et nous venons de nous envoler avec Bernard Dimet. Quant à Magdeleine, elle figure en bonne place au menu du jour. Magdeleine.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers des contes et des fables philosophiques que j'ai glanés pour vous. Aujourd'hui, je vais commencer par une très vieille parabole chinoise attribuée à un certain Lai Yuku qui vivait au IVe siècle avant notre ère. Un paysan ne retrouvait pas sa hache. Il soupçonna alors le fils de son voisin de la lui avoir prise et se mit à l'observer. Son allure était typiquement celle d'un voleur de hache. Son visage était celui d'un voleur de hache. Les paroles qu'il prononçait ne pouvaient être que des paroles de voleur de hache. Toutes ses attitudes et tous ses comportements trahissaient l'homme qui a volé une hache. Mais par hasard, en déplaçant un tas de bois, le paysan retrouva sa hache. Le lendemain, lorsqu'il regarda de nouveau le fils de son voisin, celui-ci ne présentait rien, ni dans l'allure, ni dans l'attitude, ni dans le comportement, qui évoqua un voleur de hache. Et voici à présent un petit conte qui nous vient du Liban. La guêpe et la fourmi étaient voisines. Chaque jour, la guêpe narguait la fourmi. « Oh, ma pauvre fourmi, tu te traînes chaque jour par terre et tu ramasses ta nourriture dans la poussière. » La fourmi ne répondait pas. Elle continuait placidement à avancer, un pas devant l'autre, et dès qu'elle voyait une petite graine, elle la ramenait chez elle. Un jour, les deux voisines se rencontrèrent à la porte de la boucherie. Comme d'habitude, la fourmi avançait lentement sur le chemin et la guêpe zigzaguait au-dessus d'elle. « Alors, toujours à traîner par terre, ma voisine ?»«
Regarde-moi, je vais choisir le plus beau morceau, alors que toi, tu devras te contenter des restes. »
Et la guêpe se posa sur un beau quartier de viande suspendu à un crochet. Elle commença son repas. À ce moment, le boucher se retourna, l'aperçut et paf ! Lui donna un coup sec avec le plat de son couteau. Foudroyée, la guêpe tomba par terre juste devant sa voisine. La fourmi la ramassa et la ramena chez elle, en continuant d'avancer placidement, un pas devant l'autre, un pas devant l'autre. Je vais terminer par ce vieux conte chinois. Il était une fois une vieille dame chinoise qui allait chercher de l'eau à la rivière tous les jours avec deux grands pots, chacun suspendu au bout d'une perche qu'elle transportait appuyée derrière son cou. L'un des pots était fêlé et ne revenait qu'à moitié plein à la maison, alors que le pot, en parfait état, rapportait sa pleine ration d'eau. Deux années passèrent ainsi. Le pot intact était fier de ses accomplissements, mais le pauvre pot fêlé, lui, était triste de ses imperfections. Honteux de ne faire que la moitié du travail, ce qu'il ressentait comme un échec. Un jour, alors qu'ils étaient à la rivière, il s'adressa à la vieille femme. « J'ai honte de moi, car ma fêlure sur le côté laisse échapper de l'eau tout au long du chemin jusqu'à la maison. » La vieille dame sourit. « As-tu remarqué qu'il y a des fleurs sur ton côté du chemin et qu'il n'y en a pas de l'autre côté ?»« J'ai toujours su à propos de ta fêlure. J'ai donc semé des graines de fleurs de ton côté du chemin. Et chaque jour, lors du retour à la maison, c'est toi qui les arrosais. » Voilà, mes amis. Nous avons chacun nos manques, nos craques et nos fêlures. Et trouver ce qu'il y a de bon dans chacune de ces fêlures, c'est ça qui rend la vie si intéressante et enrichissante quand on est ensemble. Les failles ont souvent un talent caché. Alors, mes amis fêlés, je vous souhaite une superbe journée. Et surtout, n'oubliez pas en repartant, prenez le temps d'aller respirer les fleurs qui poussent de votre côté du chemin.
Merci beaucoup, Magdeleine, et à très vite. Vous écoutez Culture 5, le magazine de la rédaction de balado-gazette.fr. Et avant de retrouver un certain Guy en position très inconfortable, partons en volute avec Alain Bachung.
Volute part en fumée, volute fond des nuées de scopules. Volute part en fumée, vers des flûtes enchantées et des cruelles espérances, me lance des dagues et des lances. En toute innocence, volute part en fumée, sous les yeux embués d'étranges libellules. Pour une grimace et un rictus de plus. Deux heures sous tout, je m'en donne de la peine, je cogite, je m'agite, je rejoue la scène. Je loue des clous sur des nuages, un marteau au fond du garage. Je loue des clous sur des nuages, sans échafaudage. Des lunes surdouées, aux courbes souveraines, pleines, pleines. Volute part en fumée, sous des soleils qui s'ignorent, dors, dormez,
les réponses allongées. Mais que dire, mais que faire, mais comment ça tient l'air? Ces deux hémisphères, par quel mystère? Je cloue des clous sur les nuages, un marteau au fond du garage. Je cloue des clous sur les nuages, sans échafaudage.
Et pour terminer, situons la scène. Un jour de septembre qui s'achève. Une jeune femme est assise, un châle blanc qu'elle ajuste de temps en temps pour se protéger de la fraîcheur du soir lui recouvre les épaules. Légèrement exaspéré, le visage de la jeune femme est imperceptiblement animé par l'exaspération lasse de quelqu'un qui écoute la même histoire pour la centième fois. Au bout de quelques instants, elle interrompt son interlocuteur.
« Non, Guy, Guy, s'il te plaît, maintenant il faut que je rentre. Si, tous ces mots, toutes ces phrases n'ont plus de sens. Non, je ne suis pas cruel, Guy. J'essaie simplement... Comment ? De filer en douce. Oh, Guy, je t'en supplie, ne sois pas de mauvaise foi. Mon Dieu, pourquoi tout est si compliqué? Disons que je ne voudrais pas que nous gâchions le souvenir des moments heureux que nous avons vécus ensemble par une sortie ratée. Si, Guy, si nous continuons comme ça, j'ai peur que nous finissions par tout salir. Et c'est vrai, j'ai envie que nous nous quittions d'une façon qui soit digne de toi, de moi, de nous. Tu le mérites. Moi aussi. Comment? Je n'ai pas entendu. Mais si, je t'écoute, Guy, tu es de plus en plus essoufflé. Par moments, tu ne parles pas, tu mugis. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu souffles comme un bœuf. Et ce n'est pas toujours simple de te suivre. Non, Guy, je ne t'en veux pas de souffler comme un bœuf. Je sais que tu es dans une situation éprouvante. Mais comprends que pour moi non plus, ce n'est pas facile de discuter de choses que tu ne veux pas comprendre sur ce balcon depuis 3 heures. Oui, je sais que nous n'en sommes pas au même point. Moi, je suis assise là, et toi, tu es accrochée à la balustrade par les mains, les pieds dans le vide. Comment ? Je l'ai dit. Si, je l'ai dit. Les pieds dans le vide. J'ai dit exactement « accroché par les mains, les pieds dans le vide ». Mais Guy, tu sais bien que dans un couple, et à plus forte raison lorsqu'il est sur le point de se séparer, il est rare que les deux partenaires soient au même niveau, tu le sais ça, Guy. Tu ne peux pas me reprocher une situation qui est commune au genre humain. Guy, crois-moi, notre seule issue, c'est le courage. Moi je rentre, toi tu lâches. Et on n'en parle plus. C'est net, c'est propre, ça nous ressemble. Oui, je sais que c'est douloureux, mais ne vaut-il pas mieux avoir mal un grand coup, et puis c'est fini, que de nous séparer en nous déchirant un petit feu? Regarde dans quel état tu es, Guy. Tu es violet. Ton cou est tout gonflé. Tu baves, tes bras suppurent. Non, vraiment, je t'assure, tu n'es plus toi-même. Et tes mains? Regarde tes mains. Comment? Tu ne peux pas les voir. Eh bien, moi, je les vois. Et je peux te dire qu'à force de s'agripper sur le ciment, elles ne sont pas jolies, jolies. Guy, il fait froid, ce n'est pas raisonnable. On va finir par s'enrhumer. Allez, soyons grands, lâche. Quoi? Je n'ai qu'à rentrer? C'est ça que tu viens de me dire? Je n'ai qu'à rentrer. Tu ne manques pas de culot. Et toi, pendant ce temps-là, tu resteras là. Tu veux que je travaille, que je mange, que je dorme, que je lise, avec sans cesse cette pensée dans la tête? Il y a Guy qui est pendu à mon balcon. C'est ça que tu veux? Me foutre ma vie en l'air. Oh pardon, c'est ta main. J'ai marché sur ta main? Oh non Guy, je t'assure, ce n'est pas mon style. Je suis tout à fait contre ce genre de procédé. À force de parler, la nuit tombe, il fait noir et je n'ai pas vu ta main. Où es-tu? Ah, c'est la gauche. Comment? La gauche, c'est celle qui tient encore. C'est sur la droite que j'ai marché. Je vais t'aider à la remettre où elle était. Si, si, j'y tiens. Je ne veux pas que tu me prennes pour une sauvage. Donne-la-moi, doucement. Hop, attention, raté. Oui, oui, je sais que ce n'est pas facile. Tu balances beaucoup. Comment ? Oui, remarque ça, le vent, on ne peut trop rien dire. À n'importe quel 12e étage, il y en a. Hop, voilà, ça y est. Agrippe le bord du balcon. Oh, le tricheur, pas le fer forgé, juste le ciment, à la même place que tout à l'heure. Voilà. Tu vois, Guy, finalement, ce petit incident a du bon. Il montre que nous sommes amis, que rien n'est vraiment mesquin, petit entre nous. Et je crois sincèrement que c'est le bon moment pour nous dire au revoir. Allez, Guy, chacun de son côté, fair play, je rentre, tu lâches. Oh non, par pitié, tu ne vas pas recommencer à répéter que je te laisse tomber. Non, Guy, je ne te laisse pas tomber. Je veux que chacun continue sa route, c'est tout. Non, ce n'est pas la même. Je sais, Guy. Mais je te le demande. Qui s'est pendu au balcon hier soir en me menaçant de sauter ? C'était pour me faire peur. Eh bien, ça m'a ouvert les yeux, Guy, et je t'en remercie. Un cœur de pierre ? Comment peux-tu dire ça, Guy ? La douleur t'égare. Si j'avais un cœur de pierre, est-ce que tu crois qu'il y a exactement 3 ans, quand tu as atterri sur ce balcon, sans rien, avec juste un pantalon et une chemise à peine propre, tu m'aurais émue ? Est-ce que tu crois qu'avec un cœur de pierre, j'aurais succombé à ton petit visage, fatigué d'être resté pendant 2 jours et 2 nuits à la fenêtre de la fille du dessus ? La petite garce du 13e qui t'a balancé du jour au lendemain, au moment où tu voulais l'épouser. Non, Guy, je n'ai pas un cœur de pierre. J'ai un cœur tout court. Mais un cœur, aujourd'hui, vide de toi. Je ne t'aime plus, Guy. C'est tout. Guy ? Guy ? Guy, tu es là ? Tu as lâché ? Ça fait quand même drôle. Oh ! Il est tombé sur la terrasse de Madame de Verlan. La voilà, elle arrive avec son valet de chambre. Elle lui offre du champagne. Elle l'emmène chez elle. Finalement, c'est bien ça, les hommes. Il faut toujours qu'ils compensent leur effondrement amoureux par une ascension sociale.
C'était Ultime Bataille de Jean-Michel Ribes. Culture 5, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Jean-François, Magdeleine et Annie. On se retrouve la semaine prochaine et quand vous voulez sur balado-gazette.fr. Et en attendant, n'oubliez pas d'être heureux. À ciao.
Des mégots, des poules fleurs, des chanteurs, des charmeurs, des jeunes filles en larmes et des alpinistes à main. Un jour de chance, tombé par inadvertance, amoureux, tombé à terre pour la fille qu'on aime, se relever indemne et retomber amoureux, tombé sur toi, tombé en pamoise, avaler la cire.